Donc le nouvel âge entre la réalité et la fantaisie. Le nouvel âge est extrêmement séduisant, extrêmement séduisant. Naturellement, cet esprit séduisant fait de vous un chercheur et un lecteur avide de tout ce qui tombe entre vos mains et vous emmène aussi à vivre des expériences particulières qui vous donnent envie de corroborer ce que vous avez lu. Donc vous avez ici le mot chercheur qui est important. Il dit que les gens qui sont dans ce courant-là sont des chercheurs perpétuels. Ils sautent d'expérience en expérience. Et voilà. Surtout, l'enthousiasme à explorer en profondeur toutes les propositions et à chercher à les expérimenter dans une expérience personnelle. Nous construisons ainsi un monde entre le mythe, la légende, la magie, la fantaisie, l'histoire et les dérives théoriques et explications sur le monde et l'homme. Diverses théories, pardon. Alors, une partie d'histoire, Bertrand Chaudel l'a abordée la dernière fois en partie, mais on peut regarder à nouveau. Il dit le Nouvel Âge a certains de ses antécédents dans un passé ancestral. Alors, c'est peut-être la caractéristique du travail de Delamarie, c'est que il a été vraiment fouillé la question de l'Orient et des choses ancestrales, des sagesses ancestrales. En même temps, dans des régions géographiquement éloignées, bien qu'il soit aussi inspiré par des personnages plus contemporains et qu'il soit vécu aujourd'hui dans notre société, le Nouvel Âge remonte à l'époque antique d'autres cultures et civilisations. Il dérive de traditions mystico-ésotériques, cosmogoniques, c'est-à-dire sur l'explication du monde, philosophiques et de visions du monde ancestrales, orientales, occidentales, notamment à travers les ouvrages sur la pratique du yoga. Nous y trouvons des données importantes concernant le Nouvel Âge, les concepts couramment utilisés tels que la conscience, l'énergie, le rôle du corps, un désir de synthèse, une vision optimiste d'un monde qui mène au sacré, au divin. Aussi vieux que l'Inde, le tantrisme a été admiré par le maître de Pondichéry, Sri Aurobindo, décédé en 1950. Ce dernier a profondément influencé ses lecteurs, ses disciples et les membres de la communauté d'Auroville. Ça, c'est un nom que vous pouvez retenir, la communauté d'Auroville, dans le sud de l'Inde, où 700 personnes tentent de vivre selon sa vision de l'avenir de l'humanité, la vision de Sri Aurobindo. Il a écrit « Nous ne sommes pas faits pour l'aube d'hier, mais pour les midis de demain. » Et il assurait qu'il avait expérimenté une nouvelle force de progrès qui serait désormais à la portée de l'humanité, le supramental. Ce personnage peut être considéré comme un père ignoré du New Age. D'une manière plus générale, l'hindouisme a affirmé depuis 27 siècles, comme le font plusieurs courants occidentaux de nos jours, que l'homme est essentiellement une étincelle de la création divine. Donc il n'y a pas un créateur et la création, mais c'est un tout. L'homme est dans le tout, il est une étincelle de la divinité. Et que la recherche intérieure à travers la nature, avec la méditation, la prière et le travail communautaire, soutenu par un maître ou un guide, prévaut sur tous les autres pour trouver le chemin de la voie de Dieu. Deuxième point d'ancrage, Elena Blavatsky, on en a parlé la dernière fois, morte en 1891, qui a eu et a encore, à travers les publications de sa société théosophique, une influence importante sur les mentalités du New Age. Les gens qui fouillent le New Age, qui veulent approfondir, croisent forcément les écrits de Blavatsky et s'en nourrissent. Ses œuvres portent une vision du monde bien orientale, alors qu'elle était en Occident. Vous trouverez chez elle, comme dans le Nouvel Âge, la vision d'un avenir différent qui, grâce à l'arrivée d'un ou plusieurs guides spirituels, encore un mot important, pourra unifier toutes les traditions religieuses depuis l'Antiquité dans une nouvelle vision de la vie spirituelle et religieuse. Troisième point d'appui, c'est le chemin de la gnose, qui est de proposer, la gnose, c'est la connaissance, connaissance ésotérique cachée. C'est le chemin de la gnose qui est de proposer une connaissance supérieure à l'actuelle, pour entrer en contact avec des sagesses ancestrales transcendantes ou au-delà de la planète visible, s'il vous plaît, afin d'atteindre enfin le pléroma, la plénitude, le tout. C'est-à-dire une plus grande plénitude spirituelle et humaine, plus authentique et profonde. L'hermétisme, du nom de Hermès Trismégiste, c'est ça, je crois. L'hermétisme et l'ésotérisme dérivent de la gnose, tout comme la rose-croix, le martinisme, l'anthroposophie de Rudolf Steiner, dissident de la société théosophique de Blavatsky. D'autres courants ont aussi leur influence de nos jours, le spiritisme d'Alan Kardec, l'occultisme d'Eliphas Lévy, un peu plus tôt le docteur Gérard Ancos alias Papus s'était efforcé de synthétiser les différentes écoles ésotériques. Donc là, quelques mots sur les racines. Et maintenant, on regarde aujourd'hui un Français, Paul Lecourt, 1930, évoque un âge du Verseau, que l'humanité allait accoucher dans la douleur. Pourquoi Verseau? Paul Lecourt justifie cette dénomination par l'arrivée actuelle de l'extension de l'axe de la Terre dans la constellation du Verseau. Auparavant, l'axe de la Terre aurait atteint la constellation des Poissons le 21 mars de l'année 1, inaugurant l'âge du même nom, l'âge des Poissons, dont la figure principale était le Christ. Et le signe de la reconnaissance des chrétiens était précisément le Poisson. Chaque époque dure environ 2160 années. Donc on serait rentré vers 1948, quelque chose comme ça, dans l'ère du Verseau, parce que l'axe de la Terre est dans la constellation du Verseau au niveau astrologique. Le signe de l'ère Verseau, qui a commencé le 21 mars 1948, est représenté par un jeune homme inclinant une jarre d'où tombe l'eau spirituelle. D'où le titre du document du Vatican, Jésus-Christ, porteur d'eau vive. C'est pas par hasard. Son époque verra naître plus de justice, plus d'amour, de compréhension, abolition des frontières, conscience cosmique et planétaire. Voilà, ça c'est important à bien comprendre, cette espèce de concept nouveau d'un âge qui relègue dans les bibliothèques ce qui nous est notre charpente profonde. Puis Alice Bailey, morte en 1949, inspirée télépathiquement, selon ses dires, par un professeur tibétain, annonce le retour de l'amour du Christ à travers un nouveau message divin pour cette nouvelle ère de l'humanité. Ce sera un avatar, un nouveau messager du Père Céleste, qui apportera une nouvelle révélation pour éclairer le chemin de l'homme au cours des 2160 années qui réaffirmeront le message des autres avatars. C'est-à-dire que Jésus devient un point de référence comme le Bouddha, comme Socrate, comme que sais-je, enfin voilà. Et le nouveau guide spirituel, qui est un nouveau messager, va faire une synthèse de tout cela au fond. Pour terminer ce bref parcours historique, il faut se souvenir de la contre-culture nord-américaine des années 60 et 70, protestation contre le matérialisme, la guerre, le racisme, création de nouvelles communautés, recherche d'expériences peu communes avec la drogue, Timothy Leary, l'occultisme, le chamanisme, Carlos Castaneda, enfin la science est aussi impliquée. Il faut connaître tous ces noms, Castaneda, Leary, etc., parce que vous allez voir quand on va fouiller sur les personnes... Quelquefois, ces noms apparaissent. Alors, c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'ils sont marqués. Enfin, la science est aussi impliquée. Le titre du livre, La gnose de Princeton, est révélateur. C'est une synthèse des connaissances scientifiques pour mettre en évidence le grand ressenti du destin humain et cosmique. En bref, une journaliste américaine, Marilyn Ferguson, publie son célèbre livre Les enfants du Verseau, dans lequel elle expose un changement de paradigme, c'est-à-dire du système de référence et de valeur. Alors, on vous en a déjà parlé, il y a eu deux communautés pilotes importantes, En Californie, l'Institut Esalena, une rencontre entre deux mondes qui est née dans les années 1961. Les membres de l'Institut Esalen sont conscients des maigres ressources que les religions, les philosophies et les sciences actuelles proposent aujourd'hui à l'homme pour aider dans sa recherche de nouvelles voies et propositions qui soulageront la souffrance de l'homme contemporain. Michael McMurphy crée ce lieu privilégié où se pratiquent les plus anciennes techniques philosophiques et psychologiques, ainsi que les plus récentes. Des personnalités célèbres ont fréquenté ce centre. Alan Watts, Carl Rogers, la PNL.
C'est le développement de la personne, Carl Rogers.
Carlos Castaneda, Abraham Maslow, Frédéric Peirce, entre autres. Donc ce mot, Esalen, à prendre référence, va ressortir. L'autre communauté est née en 1962, où le centre gravite dans la nature en s'occupant de la croissance d'énormes légumes au nord de l'Écosse, précisément dans un sol aride et avec un climat défavorable. De nombreux visiteurs viennent de toute la Grande-Bretagne pour voir le phénomène. Qu'est-ce qui se passe? Un couple, Peter et Eileen Cady, affirment qu'être en contact avec l'environnement, à la fois avec la flore et la faune, est extrêmement important pour une meilleure qualité de vie et que c'est ainsi qu'ils commencent la communauté bien connue du Finhorn, qui tente d'apporter un nouveau modèle de coexistence humaine avec la nature dans un environnement de plus grande coopération et de fraternité, et en même temps dans une relation spirituelle inclusive et respectueuse de toutes les religions. C'est le côté un peu écolo du New Age. Voilà. Alors Della Marie fait effectivement référence à quelque chose qui est moins mis en relief ailleurs, à savoir le monde préhispanique. Le mouvement de l'âge du Verseau trouve aussi ses origines dans la sagesse méso-américaine, ancienne, principalement dans les cultures toltèques, olmèques, mayas, zapotèques et nahuas. Vous connaissez peut-être le livre Les quatre accords toltèques. Actuellement promu par les soi-disant anciens, les sages et les guérisseurs, héritiers de cette sagesse de leurs ancêtres, dont les histoires et les connaissances peuvent être connues par le biais d'entretiens et d'enseignements publiés par différents éditeurs et auteurs. Carlos Castaneda, Antonio Velasco Piña, José Arguelles et une liste impressionnante d'auteurs et de savants ont publié de nombreuses études et interviews qui font déjà partie du vaste itinéraire d'études de la connaissance ancestrale méso-américaine, largement méconnue des chercheurs américains et européens. Ils viennent confirmer le début d'une nouvelle ère qu'ils n'appellent pas Verseau, mais qui coïncide avec le cycle solaire d'un nouvel âge, qui va provoquer des changements dans la civilisation et la culture contemporaine. Ce nouvel âge coïncide avec une nouvelle rencontre avec le divin et le spirituel, afin de sauver les grandes valeurs de l'humanité. Valeurs qui ont perduré pendant des milliers et des milliers d'années sans que personne ou que quelque institution prétende posséder ces vérités pérennes qui, pour la tradition précolombienne, sont représentées dans la figure de Quetzalcoatl, le serpent à plumes. Évidemment, tout ça nous est fortement étranger, mais voilà, c'est quelque chose aussi qui va, dans certains tenants du New Age, réapparaître. Pour Antonio Velasco Piña, par exemple, le début du New Age a lieu le 21 mars 1948 avec la naissance d'un être très spécial et spirituel appelé Ren, qui, grâce à son effort, son travail spirituel et son sacrifice, a réussi à réactiver l'énergie dormante des volcans du Mexique, le masculin et le féminin, l'omeyolt ancestral des grandes cultures et toute leur sagesse cosmique, qui, à partir de 1968, année du sacrifice de Rennes, a commencé son large processus de réactivation cosmique énergétique qui prépare les nouveaux changements et processus du nouvel âge annoncés par les grands sages et prêtres des traditions précolombiennes depuis des temps très reculés et qui coïncident avec les antiques prédictions et prophéties concernant ce qui doit arriver à ce moment de l'humanité. Une époque où les connaissances occultes et sacrées des cultures antiques commenceront à être révélées et partagées avec certains initiés qui seront tout aussi respectueux et connaisseurs de la sagesse occidentale, orientale et préhispanique, pour former une culture universelle unique, comme le mentionnent les antiques héritiers des grandes cultures méso-américaines. Donc ils annoncent qu'il va y avoir une sorte de résurgence de ces sagesses ancestrales. Bon voilà, c'était un petit rappel d'un point de vue historique que Bertrand avait déjà fait la dernière fois, mais c'est important de savoir ces choses. Alors on va regarder maintenant un point évidemment très important qui ressort dans la plupart des tenants sur le terrain des pratiques New Age, c'est la question de l'énergie, des énergies. Vous allez vous faire du Reiki pour réharmoniser les énergies. On va vous proposer de la réflexologie plantaire, on va vous proposer de, que sais-je, enfin, tout ça pour remettre vos énergies en ordre, parce que voilà, vous êtes malade, c'est parce que voilà, les énergies vont de travers et il faut lire. Voilà, vous verrez tout à l'heure. Hein. Alors l'importance d'abord de concevoir l'énergie, d'avoir une idée que pour les tenants du New Age, c'est une chose très très essentielle. Donc pour eux, l'essentiel, c'est de croire aussi à l'invisible, parce que tout le monde comprend et accepte facilement le visible. Et même dans le credo du catholicisme, nous parlons de croire au monde visible et invisible. Dans le Nouvel Âge, on propose de prendre en compte des énergies qui ne sont pas visibles, ni mesurables et quantifiables. On oriente les gens vers la compréhension et la manipulation des énergies subtiles qui peuvent soit nous aider à trouver le chemin vers le spirituel ou le sacré, soit nous perdre et nous conduire aux extrêmes de la souffrance humaine marquée par le matérialisme et l'attachement au plaisir charnel et banal. L'âge du Verseau suggère un éveil de la conscience qui nous permet de réaliser que nous habitons une planète au sein d'un univers qui vibre sans cesse, et en arrière-plan, de faire circuler une foule de manifestations de Dieu que ne voit pas, que nos yeux ne voient pas. Donc ça vibre sans cesse, les énergies sont là, et Dieu agit à travers, mais on ne voit pas, mais on est prié d'y croire, si j'ose dire. En tout cas, d'accepter ce postulat de la présence des énergies. Autre chose importante, le monde invisible, des forces puissantes et innombrables sont cachées dans le cœur de nos vies. Elles peuvent le déranger comme le pacifier. La déranger comme la pacifier. On découvre que la vie est beaucoup plus que ce que nous voyons et connaissons. Beaucoup de connaissances qui dépassent ce qui est scientifique et technologique, comme les récits du passé transmis par l'histoire actuelle. Les enseignements ancestraux secrets sont imprégnés d'influences cosmiques et de radiations énergétiques et magnétiques qui proviennent autant du cosmos que de la surface et du centre de la Terre. Puisque chacune des énergies subtiles a sa propre vocation, sa propre fonction particulière, son propre rôle. Pour le Nouvel Âge, ces énergies sont une réalité qui permettra à l'homme d'aujourd'hui d'avancer vers un nouveau style de vie plus harmonieux et plus équilibré. Donc il faut être conscient de ces énergies, il faut éveiller ces énergies, il faut harmoniser ces énergies, les équilibrer, etc. Un exemple de cette vision claire de l'influence de l'énergie circulant dans l'espace qui peut affecter le comportement humain, se trouve dans la vaste bibliographie du Feng Shui. Vous voyez ce que c'est le Feng Shui ?
Non. L'espace de travail.
Oui, donc pensez que la façon dont nos pièces sont agencées permet ou pas aux énergies de circuler, et donc on peut se trouver au fond mal à l'aise dans sa peau, parce que...
Lui est mal orienté, les choses comme ça, c'est ça ?
Voilà. Donc vous avez des experts en médecine de l'habitat qui sont à la fois branchés feng shui et géobiologie. Déceler les courants d'eau, les machins, les trucs. Enfin, et donc quand vous pénétrez dans ce type de compréhension, vous êtes en plein effectivement dans l'acceptation que les énergies vont jouer un rôle primordial dans l'équilibre de votre vie et de votre lieu de vie. Hein. Voilà. C'est d'origine chinoise, mais on... dans ces énergies, on conçoit également la présence d'êtres de lumière, appelés anges gardiens ou guides spirituels, qui sont dessinés avec des ailes et enveloppés d'une énergie subtile que nous ne pouvons pas percevoir ou à laquelle nous n'avons pas accès, si ce n'est au moyen d'exercices spirituels, qui vont de la prière à un comportement charitable et affectueux envers notre prochain. Ce chemin mène à un état spirituel énergétique. État spirituel énergétique. C'est pour ça que j'intitulerai le travail final, quand il sera terminé, énergétiquement, M-A-N-S. Comme il y a essentiellement énergétiquement, parce qu'au fond, tout est basé sur ce concept d'énergie. Un état spirituel énergétique qui se connecte avec les sphères supérieures de la création céleste, les autres univers, où Dieu permet à l'homme d'accéder à certains mystères réservés aux êtres avec des niveaux élevés de conscience, de spiritualité, gagnés par leurs œuvres d'amour envers la création pendant leur vie. Donc voilà, il y a pas loin de nous des êtres de lumière qu'on peut solliciter, avec lesquels on peut entrer en contact, qui peuvent nous révéler des choses, parce qu'ils les ont expérimentées. C'est dans d'autres univers, ou en tout cas ils sont arrivés, eux, à une sorte de perfection énergétique qui leur permet de savoir ces choses. Mais il y a aussi d'autres forces pour ouvrir nos cœurs. On enseigne que le cosmos n'est pas le chaos, puisque chacune de ces énergies a un rôle particulier pour le bon fonctionnement de l'ensemble. Et pour l'œil intérieur qui verrait tout cela, l'univers serait l'expression formidable de la présence même du Créateur. Mais pourtant, pour eux, il n'y a pas de Créateur. L'univers, comme claire manifestation du macrocosme, c'est-à-dire de l'ensemble le plus grand, hein, et chaque personne comme une réalité microcosmique en pleine harmonie avec la première, avec le macrocosme, où l'homme va à la recherche de l'être transcendant par la connaissance rationnelle et expérientielle de sa propre existence. Bon, ça fait beaucoup de gros mots, tout ça, hein, mais vous allez voir tout à l'heure comment les gens s'en emparent. Autre aspect important, la face occulte du monde, la face cachée du monde. Bon, le paragraphe précédent, c'était le monde invisible. La face occulte du monde, le Nouvel Âge propose une vision plus large du monde, incluant les vibrations cosmiques. Voilà. Autrement dit, notre science actuelle, c'est vraiment du jus de boudin, parce qu'il y a des tas de choses qu'on n'a pas encore compris et découvert. Quoi. Et grâce à ces révélations, on va élargir notre horizon infiniment. Ainsi, le langage est nuancé par la terminologie liée à l'énergie. Par exemple, si une personne admire une autre personne, elle dira sans doute qu'elle a une bonne vibration. C'est-à-dire qu'on se sent bien avec elle, car on vit entouré d'une atmosphère positive et agréable qui est due à la qualité de ses attitudes et qui diffuse une aura très particulière de lumière, avec des couleurs qui la distinguent des autres personnes, une énergie positive. L'inverse est également vrai, ne dit-on pas de certaines personnes qu'elles absorbent notre énergie et nous pompent l'air. C'est peut-être un groupe, quel qu'il soit, avec ses richesses, ses limites, ses objectifs communs, un syndicat, une église, un parti politique ou un club d'amis forment avant tout un égrégore, c'est-à-dire un groupe organisé de vibrations invisibles, mais perceptibles dans leur attitude et leur comportement vis-à-vis des autres. Au fond, les personnes, les organisations humaines semblent refléter la gestion positive ou négative des différentes énergies cosmiques, représentés dans des attitudes, des comportements, des intentions, des valeurs diverses qui sont traitées dans la vie quotidienne. Voilà, faut vraiment vous défaire de tout ce que vous savez jusqu'à présent pour entrer dans ce type de choses. Quoi. On est dans une autre vision des choses. Savoir que le cosmos est infini, qu'il y a des tas de vibrations qui nous entourent, d'énergie, il faut apprendre à les capter. Voilà. Non seulement les personnes, les organisations, les institutions contribuent au positif ou négatif, mais les lieux eux-mêmes sont porteurs d'énergie subtile qui sont capables d'affecter la bonne ou mauvaise façon de vivre. L'orientation de la tête de lit peut affecter gravement la santé du dormeur, comme l'ouverture d'une porte ou l'emplacement des objets, les tableaux, les commodes, les tables. Même l'agencement architectural, l'ingénierie et les matériaux utilisés dans la construction peuvent sérieusement affecter la santé, la renommée, le succès économique et professionnel de la relation conjugale. Dans le langage du Nouvel Âge, il est typique d'attribuer la responsabilité du divorce et des conflits familiaux au feng shui de la maison, science chinoise consacrée à l'étude des énergies cosmiques implicites dans le lieu ou dans les dispositions mêmes de la construction. Aller jusqu'au divin. L'être humain New Age est un chercheur spirituel. Ça, c'est vraiment essentiel. Un chercheur spirituel. Donc, il travaille et puis tout ce qu'il peut gagner, il va le dépenser dans un week-end en fin de mois où il va essayer d'aller encore plus loin dans sa quête grâce à un nouveau guide spirituel qui met sur le marché un nouveau truc. Bon. Un chercheur spirituel qui trouve dans la société, dans la nature, toutes sortes de manifestations de la présence divine exprimées par le concept d'énergie. Parce que celles-ci ne peuvent venir que du créateur même de qui vient chaque signe de vie et d'harmonie. C'est pourquoi une multitude de connaissances ont été révélées qui nous permettent d'utiliser ces énergies. Ah. D'utiliser ces énergies exprimées dans la nature elle-même, au nom de Dieu, pour pouvoir guérir les autres, par exemple. Dans certains cas, il peut y avoir le risque d'exercer cette faculté ou ce pouvoir et d'oublier que c'est l'œuvre et la grâce de Dieu. Tous les vrais mystiques condamnent le fait que la spiritualité devienne un attachement au miracle. Selon la fameuse phrase de saint François de Sales, les consolations de Dieu sont préférées au Dieu des consolations. Mais voyez, quand on dit qu'on va utiliser ces énergies pour guérir, c'est exactement ce que l'on fait dans l'occultisme. Tous nos magnétiseurs et, sont branchés de cette façon-là, déjà sans toute cette logomachie New Age. Dans le Nouvel Âge, le monde n'est qu'une partie du cosmos entier. Le monde n'est qu'une partie du cosmos entier. La Terre est une minuscule partie de toute la magnifique création du Seigneur. Dans cette nouvelle vision, on comprend que nous ne sommes qu'une partie d'un tout beaucoup plus cosmogonique et large que ce que nous connaissons jusqu'à présent. L'au-delà se trouve dans l'ici et maintenant, des manifestations de son énergie, sans la réduire naïvement à ce divin qui est un puits d'énergie cosmique pure. Autrement dit, des choses qui se produisent dans notre monde qui sont la répercussion des énergies cosmiques sur notre monde. L'univers contient de nombreux mystères encore inconnus, et maintenant, grâce à la découverte des nombreuses manifestations de l'énergie, il est possible de supposer la possibilité d'entrer en contact avec d'autres mondes, d'autres manifestations de l'existence jusqu'alors inconnues. Ainsi, dans un récit profond et très révélateur de cette tendance actuelle, se trouve dans le livre d'Urantia, un travail fait par des experts qui ont canalisé la connaissance et la sagesse sur la création par des êtres d'autres dimensions, imperceptibles pour nous, mais qui souhaitent nous transmettre cette information privilégiée. Je reviens sur le mot canaliser, channeling en anglais, qui ont canalisé, c'est-à-dire que dans ce livre d'Urantia, on prétend que des experts, alors note 3, le livre d'Urantia est également connu sous le nom de Cosmogonie d'Urantia, est un ouvrage de 2097 pages, s'il vous plaît. C'est pas la Pléiade, mais 2097 pages à vocation spirituelle et philosophique qui aurait été écrit entre 1924 et 1955. L'ouvrage publié sans nom d'auteur se présente comme l'œuvre de plusieurs auteurs, également inconnus, dont de prétendus êtres célestes. Le mot Urantia désigne la Terre. L'objectif du livre serait de présenter et d'élargir des concepts avancés de vérité, des concepts avancés de vérité, dans l'espoir d'étendre la conscience cosmique et la spiritualité de notre planète. Il expose des théories sur l'origine, le but de la vie, la place de l'homme dans l'univers, la relation entre Dieu et les hommes, ainsi qu'une biographie détaillée de Jésus-Christ. Fantastique. La Fondation Urantia a publié pour la première fois ce livre en 1955 en langue anglaise. Donc on nous dit là que des gens voilà, ont reçu des révélations et les ont mis en forme. Apprendre à gérer le flux des énergies. Toutes les énergies cosmiques communiquent et réagissent entre elles. Elles renforcent certaines des connaissances proposées par les érudits du Nouvel Âge. Elles sont vivantes, dynamiques, elles coulent partout. Ceci explique la grande importance du maître spirituel, du guide, de l'aîné, du conseiller, car la gestion de l'énergie exige avant tout une connaissance large qui appartient régulièrement aux anciennes traditions sacrées et gardées secrètes pour être révélées à un tout petit nombre. Donc pour ne pas se planter, en gérant nos énergies, il faut faire référence à quelqu'un qui a une connaissance plus expérimentée que la nôtre, quoi. Alors ça, évidemment, ça nous met en état de dépendance d'un certain nombre de zozos, c'est garanti, ça je vais voir tout à l'heure. Ce type de façon de concevoir les choses. Dans le mouvement du Nouvel Âge, les anciens gardiens de ces traditions, qu'il s'agisse des lamas, des druides, des celtes, des templiers, des olmecs, des lakotas, des hopis et plusieurs autres, ont été forcés de révéler cette connaissance ancestrale en raison de ces débuts de Nouvel Âge, marqués par l'influence qu'exercent les changements dans la position de la Terre par rapport au Soleil. Ils sont obligés de cracher au bassinet, de faire savoir. Voilà. La connaissance doit être donnée à ce stade à certains étudiants soigneusement choisis afin d'initier précisément les personnes qui rendront possible les nouvelles générations d'êtres plus spirituels et capables d'aimer et de vivre paisiblement dans un monde qui aura résisté à quitter la violence, qui a résisté à quitter la violence, la haine, la déception et le déchaînement pour les choses matérielles et superflues, s'éloignant ainsi de toutes les chemins célestes, en particulier de l'envoi du Fils de Dieu Jésus. Donc ces gens initiés, en quelque sorte, vont à leur tour initier d'autres personnes pour que de nouvelles générations puissent venir. Ces maîtres enseignent la gestion des énergies, telle que les prophètes et le Sauveur lui-même l'a montré à son troupeau bien-aimé à travers une dimension miraculeuse et surnaturelle, infiniment supérieure aux dimensions actuelles. Donc on relie les miracles de Jésus, évidemment, à avec cette clé. Disant que Jésus était quelqu'un vraiment qui avait compréhension des énergies, il l'a montré à travers ses miracles. Mais qui aujourd'hui semble plus compréhensible en allant à la racine de la manipulation des énergies curatives que Jésus utilisait tant pour le bénéfice de ses disciples. Que Jésus utilisait tant pour le bénéfice de ses disciples. Donc on prétend que Jésus a utilisé les énergies, mais qu'aujourd'hui, avec l'ère du Verseau, on va aller encore plus loin dans la compréhension de l'origine des énergies, de la connaissance des énergies et de la manipulation des énergies. On fera beaucoup mieux que Jésus. Dans le Nouvel Âge, les pratiquants se réfèrent toujours à la loi de l'amour, sans laquelle il n'y a pas d'énergie positive qui permettra la guérison. Donc si vous allez sur les sites internet, les pages Facebook, etc., vous verrez, il y a toujours des petits cœurs, des machins. Oh, comme tu es. Voilà, enfin, c'est toujours très, très sentimenteux, affectivo-gélatineux. Les grands maîtres spirituels, gardiens de leur tradition, savent qu'ils vivent des moments cosmiques, prophétisés des milliers d'années avant, pour donner un nouveau changement dans l'homme présent. Un changement qui durera au moins 200 ans. C'est donc un mouvement qui ne répond pas à des intérêts sectaires, schismatiques ou idéologico-religieux, ni à des oppositions philosophico-théologiques. C'est un mouvement cosmogonique d'origine mystérieuse, produit par des énergies spirituelles canalisées, dont on a reçu l'information, canalisées dans la redécouverte de la sagesse ancestrale, transmise par les nouveaux prophètes, mystiques, saints et sages, par de nouveaux prophètes éloignés de la tradition judéo-chrétienne, mais sans l'exclure. Alors évidemment, il y a un grand danger à travers ça, c'est d'assimiler le Saint-Esprit à une énergie, évidemment. Et donc, on va avoir dans le New Age une des façons de capter le Saint-Esprit comme une énergie. Si on veut faire un rapprochement entre l'Esprit Saint et l'énergie, on voit qu'elle n'est pas absente de la Bible. Au contraire, elle la traverse depuis les débuts du monde où l'Esprit a plané au-dessus des eaux, jusqu'à la Pentecôte, quand les apôtres deviennent des hommes radicalement nouveaux à la surprise de tous. Jésus avait promis à ses amis une force d'en haut, et celle-ci émergea avec un pouvoir transformateur. Aujourd'hui encore, tout disciple de Jésus peut devenir récepteur de cette puissance d'évolution et de renouveau. Prière, lecture sacrée, pratique des sacrements sont trois moments privilégiés de rencontre avec cette énergie que nous pouvons appeler christifiante, qui fait de nous d'authentiques disciples du Christ. C'est une énergie qui a beaucoup de formes, qui anime la nature, transmet la vérité, unifie l'homme et les êtres humains, nous rend aptes à toute bonne œuvre, agit comme la source de toute force qui mobilise l'homme en toute action d'amour et de paix. Une énergie unique mais multiple dans ses activités. C'est la raison pour laquelle l'esprit est appelé septuple dans l'Apocalypse. Mais, il ne s'agit pas de réduire ou de simplifier la figure personnelle du Saint-Esprit à une pure énergie ou en une pure énergie divine. Il s'agit de comprendre que dans le Nouvel Âge, les anciens horizons de la spiritualité ancestrale s'ouvrent pour s'additionner aux horizons déjà existants et configurer ainsi une variété plus grande et plus accessible d'approche du Père Créateur. On va vous dire qu'il n'y a pas le Saint-Esprit, qu'il n'y a pas que la révélation chrétienne, il y a aussi les sagesses ancestrales, il y a aussi la méditation, il y a aussi le yoga, il y a aussi le bouddha, il y a aussi l'hindouisme, etc. On additionne l'ensemble, tout ça pour approcher du divin. C'est comme si on faisait un retour en arrière pour réassimiler les sagesses ancestrales à la lumière de l'héritage chrétien, ce qui va évidemment nécessiter beaucoup, beaucoup de discernement. Est-ce qu'on regarde le paragraphe sur la... Oui, on peut, puis on arrêtera après. Sur la conscience. L'éveil de la conscience. On ne parle plus seulement de la bonne ou mauvaise conscience, c'est-à-dire la conscience morale, qui nous fait dire « j'agis selon ma conscience », ou de la conscience psychologique, par laquelle chacun réalise ce qui se passe. C'est plutôt une connaissance qui, selon le Nouvel Âge, est intuitive, intime, intense et indestructible. La conscience. La conscience, c'est plutôt une connaissance. Vous avez une conscience plus ou moins éveillée, selon les personnes. Plutôt une connaissance intuitive, intime, intense, indestructible, qui pénètre plus facilement dans les mystères de la réalité de la vie, du monde et du cosmos. Personne ne peut prétendre connaître vraiment les autres êtres et les choses avec seulement la réflexion ou l'enquête intellectuelle, parce que vous ne pouvez plus simplement savoir par le chemin de la raison. Mais s'ajoute maintenant la capacité d'intégrer les émotions, les ressentis, une grande capacité de capter et de percevoir le monde dans lequel nous vivons. Donc vous pensez bien qu'il y a une dévalorisation de la raison. On vous dit oui, mais vous voulez limiter les choses à votre raison. Élargissez. Il s'agit de communiquer avec la personne, de capter ce qui lui arrive, d'être avec elle, de pouvoir pénétrer sa subjectivité, son intimité, son essence, sans perdre l'objectivité de l'autre et de soi-même. C'est une conscience qui est basée sur le concept de « tu es mon autre moi ». Relecture de « aimer son prochain comme soi-même ». Ne pas faire aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Enfin, quand même, c'est pas pareil. « Tu es mon autre moi ». Donc on est en pleine médiumnité, là, mine de rien. C'est la conscience qui se développe dans les enfants qui naissent dans ce nouvel âge du Verseau par des influences directes de la position que le soleil garde maintenant par rapport à la Terre. Maintenant, ce sont les enfants indigos, nommés ainsi d'après la couleur de leur aura, et décrits comme des enfants hyperactifs. Au fond, ce sont des êtres doués de nouvelles compétences et capacités pour transformer la planète et la conscience de l'humanité vers le nouvel avenir. De cette façon, La conscience vous permet non seulement de savoir si vous faites les choses bien ou mal, ou si vous êtes conscient de vous-même dans le temps et l'espace, mais vous ajoutez une conscience intuitive de l'autre, non plus comme un objet de connaissance, mais comme un autre sujet avec lequel on peut vraiment communiquer, s'unir et vivre ensemble. Une sorte d'interpénétration. Bref, l'âge du Verseau va progressivement développer un sens plus grand du respect et de la coexistence avec les autres, de telle sorte que les gens puissent vivre plus harmonieusement et pacifiquement, soutenus par cette conscience intuitive. Les hommes qui acquièrent progressivement une plus grande conscience auront la possibilité de se connecter dans une communication supérieure avec tout ce qui est au-delà de notre monde sensible et visible, et qui ne tombe jusqu'à présent que sur le terrain de l'imagination et de la fantaisie, comme le contact avec les extraterrestres, les êtres d'autres dimensions, les gnomes, les dauphins, les fées, les êtres qui viennent de Sirius, les Pléiades. C'est dans ces changements, dans la condition individuelle et collective, que le nouveau monde pourra advenir. Nous devons travailler pour notre éveil spirituel et pour le développement de notre propre potentiel. L'homme devient alors un avec Dieu pour éviter tout intermédiaire entre sa propre conscience et celle de son Créateur. Conscience et énergie, l'objectif de connaître les différents éléments du réel et d'y communier pour se transformer est de type gnostique. C'est la connaissance par excellence. Il y a des niveaux de conscience qui sont aussi des niveaux d'énergie, car l'énergie est consciente et la conscience est énergétique. Globalement, le monde invisible forme une véritable échelle, puisque ses strates subtiles sont organisées et hiérarchisées. Il sera alors possible de monter à chaque marche jusqu'à la source. Parlons des strates les plus importantes, conscience physique, conscience instinctive, conscience émotionnelle, conscience intellectuelle, conscience spirituelle. Nous avons ici une vision optimiste du monde puisqu'elle peut nous conduire au divin. Dans ses principes, la Bible répète également que Dieu a vu que sa création était bonne. Paul parle des niveaux invisibles de l'existence, pouvoir, trône, domination. Mais il dit que ce sont simplement des créatures et que le Christ est au-dessus d'elles. Pour le Nouvel Âge, l'important c'est de se transformer, mais pour cela il faut se connaître soi-même. Que chacun de nous soit donc informé du fonctionnement de l'individu humain. Chaque homme doit être bien convaincu qu'il dépasse de loin son corps au sens habituel du terme, le corps grossier, disons-nous parfois. C'est avant tout un corps invisible, subtil, astral ou énergétique. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser spontanément, ce corps de lumière n'est pas enfermé dans un corps physique, comme un vase. Au contraire, il le soutient et le laisse vivre. Mais il le dépasse de beaucoup. Il a sa propre organisation, comme le corps physique, et en relation avec lui. Il a son propre plexus, les chakras en sanskrit, cela signifie roue, comme ses canaux de circulation d'énergie. En général, on distingue 7 chakras qui vont de la base de la colonne vertébrale à la partie supérieure du crâne. Dans le chakra inférieur, une force puissante, la kundalini, dort, et le but de certaines pratiques ésotériques est de l'éveiller. Elle monte ensuite dans la colonne vertébrale. Si elle atteint le chakra supérieur, elle cause l'illumination. Soulignons que cette forme de yoga est dangereuse et ne devrait jamais être pratiquée sans l'aide d'un professeur reconnu. La pratique du Hatha Yoga a contribué à populariser en Occident le concept de corps subtil. Il laissait parfois son enveloppe physique pour voyager dans l'astral. Cette vision de l'homme peut être appelée psychophysiologique, compte tenu de la relation entre les deux corps. Elle est également liée à l'ensemble réel, puisque l'individu est un microcosme qui peut communiquer avec le macrocosme, l'univers entier, dans la mesure où il connaît les mécanismes ésotériques de son fonctionnement. Donc microcosme et macrocosme, les éléments du monde correspondent les uns avec les autres. Chacun des hommes forme un petit univers, relié par toutes ses fibres avec le grand cosmos, qu'il connaît plus par communion que par déduction. Le souci d'unifier les groupes est une caractéristique fondamentale du Nouvel Âge. Tout communique. L'homme est vu comme un univers minuscule, un microcosme qui contient tous les éléments de l'univers dans son ensemble, le macrocosme. Ce qui est ici, en moi, est partout. Ce qui n'est pas là est nulle part. Vous retrouvez dans la réflexologie plantaire, par exemple, ou dans d'autres choses comme ça, le même concept. En d'autres termes, chacun de nous est un modèle de l'univers, un microcosme, une réduction du monde. Dans le tout se trouve ce que l'on rencontre dans les autres. Et c'est précisément parce que nous portons l'univers en nous-mêmes que nous pouvons le connaître au sens large du terme. Nous le rencontrons directement sans avoir recours à une diversion cérébrale. C'est une vraie communion par identité, peut-être une fusion. Incroyablement, l'homme peut capter toutes les fréquences du cosmos. Mais pour cela, il doit développer toutes ses capacités à tous les niveaux, la matière, l'effectivité, l'intellect, la superconscience. La perspective du Nouvel Âge est donc intégrale, synthétique, dans un mot holistique, qui vient de l'adjectif holos, tout. Dans le principe holistique, chaque situation sera considérée sous un maximum de facettes et l'être humain sera conscient de sa relation avec le divin, le cosmos et l'humanité. Il vivra avec le désir intense d'unifier la diversité. Il aimera la terre qui forme un être vivant, unique, Gaïa, le nom de la déesse grecque de la terre-mère. Il accordera beaucoup d'importance à l'écologie et se réjouira que grâce au développement intense des médias, la planète devienne un véritable peuple, un ensemble de plus en plus connecté, une sorte de cerveau collectif. De plus, il cherchera à entrer en contact avec l'au-delà par le biais d'êtres privilégiés, liés à l'au-delà. Ces véritables canaux d'information ont donné à cette pratique le nom de channeling. Ils donnent des informations sur le défunt et transmettent des messages du monde des anges. Mais ne sommes-nous pas là en pleine médiumnité, en plein spiritisme, et donc ouverts aux influences des esprits ténébreux ? Selon la Bible, l'homme n'est qu'un élément aussi important soit-il du cosmos qui a été créé pour lui, c'est-à-dire à son service, qui lui a été donné. C'est le sens de cet épisode de la Genèse dans lequel Adam nomme les animaux. Bien sûr, si nous abandonnons trop dans ce sens, nous risquons de nous imposer à la nature au point de ne plus la respecter et la détruire. Et ça, c'est très intégré maintenant, ça. L'homme n'est plus le maître de la terre, il ressemble plus à son tyran. Mais le danger du New Age est avant tout d'effacer la place singulière de l'homme dans une création dont il ne forme plus qu'une partie importante. En insistant trop sur sa communion avec l'univers, ne risquons-nous pas de réduire l'homme à un engrenage cosmique, quoique essentiel, un petit engrenage dans l'ensemble? Dans ce cas, on verrait l'individu comme un simple élément du monde. Cette tendance est-elle corrigée par l'invitation des meilleurs auteurs du New Age à approfondir notre intérieur? En outre, nous courons un grand risque en cherchant le bonheur dans un rassemblement artificiel d'un mauvais syncrétisme des données brutes des différentes traditions religieuses, de la science, de la sociologie, de l'économie, entre autres. En voulant une synthèse, on risque de trahir le réel. Et des gens sérieux affirment que toutes les religions sont semblables, que leur vision de la réalité ultime est identique, qu'il n'y a pas de différence entre la trinité chrétienne et la triade Shiva, Brahma, Vishnu. Cette tentative de synthèse a plus à voir avec la juxtaposition qu'avec l'harmonisation. Elle trahit le Nouvel Âge dans l'importance qu'il accorde à l'harmonie. Ça va ? J'ai pensé à amener un peu d'aspro. Je vais laisser chez moi, mais... Ça vous semble un charabia insupportable, peut-être ?
Qui en classe par les couleurs. Plus rose et argile. Le produit soir.
Oui, à Notre-Dame.